Laudetur Jesus Christus.
La Syrie face au retour de ses réfugiés. Une dizaine de jours après la chute de Bachar al-Assad, près de 100 000 exilés ont déjà rejoint leur pays. Reportage ce matin dans un camp de réfugiés syriens en Jordanie. Manque d'eau et de nourriture après le passage du cyclone Chido dans l'archipel français de Mayotte dans l'océan Indien où l'on craint déjà la crise sanitaire. Kinshasa versus Apple. La RDC accuse la société américaine d'avoir acheté des minerais sortis illégalement du pays. Nous entendrons les explications de notre correspondant sur place. Dans ce journal également, le projet de la gigantesque ambassade chinoise en Grande-Bretagne qui prend du retard. Et puis dans notre dossier, que peut l'Union européenne en Ukraine? Alors que Volodymyr Zelensky se rend une nouvelle fois demain à Bruxelles, nous serons avec Frédéric Moreau, chercheur associé à l'IRIS et spécialiste des questions de défense.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour à toutes et à tous. C'était une des images marquantes après la chute de Bachar al-Assad en Syrie. Les files de voitures quittant le Liban et la Turquie après une dizaine d'années d'exil. En cette journée internationale des migrants, l'ONU rappelle que ces personnes ont évidemment le droit de rentrer chez eux en Syrie, mais avertit que les infrastructures syriennes ne peuvent pas faire face à un retour à grande échelle et qu'il faut des investissements pour stabiliser davantage le pays et éviter plus tard une nouvelle vague de migration. En 13 ans de guerre, la moitié de la population syrienne a été déplacée dans le pays et des millions ont dû s'exiler à l'étranger. Ce matin, nous prenons la direction d'un camp de réfugiés syriens en Jordanie. Nés sur place, certains enfants n'ont jamais foulé la terre syrienne. Le reportage de Mohamed Erami.
Depuis 13 ans, des enfants syriens grandissent dans les camps de réfugiés en Jordanie. Ils n'ont connu que la vie de réfugiés, aucun souvenir de leur pays, juste des récits de leurs parents. Aujourd'hui, avec les changements en Syrie, le retour semble inévitable. Mais pour ces enfants, c'est un dilemme. Un pays inconnu, un quotidien difficile. Zohour Adnan, 10 ans, exprime ses sentiments d'incertitude.
Je suis syrienne et j'aime la Syrie, mais je ne sais pas où nous allons vivre car papa et maman m'ont dit que notre maison à Homs a été détruite. Je ne sais pas non plus comment seront les écoles là-bas.
Les parents ont essayé d'inculquer l'amour de la Syrie à leurs enfants, mais beaucoup d'entre eux ont peur de la réaction de leurs enfants face au retour, comme le raconte Naha, mère de 3 enfants née à Za'atari.
Au final, la Syrie est notre pays et nous devons y retourner. Mes enfants s'adapteront certainement. C'est vrai que cela prendra beaucoup de temps, mais vivre dans notre patrie est bien mieux que de rester réfugié.
Depuis 2011, plus de 200 000 naissances ont eu lieu parmi les réfugiés syriens en Jordanie. Le plus vieux d'entre eux a aujourd'hui 13 ans. Mohamed Erami, Amman pour Radio Vatican.
On reste en Syrie où le chef du groupe d'islamistes radicaux Ayat Tahrir al-Sham, qui a mis à la porte la dynastie al-Assad, annonce que la prochaine étape sera la dissolution des groupes armés, à commencer par le sien, pour les fondre au sein d'une future institution militaire. Mohamed al-Joulani, qui a par ailleurs affirmé que les zones kurdes semi-autonomes dans le nord de la Syrie seront intégrées à la nouvelle administration du pays. Le peuple kurde est une des composantes du peuple syrien. La Syrie ne sera pas divisée et il n'y aura pas d'entité fédérale, dit le nouvel homme fort de la Syrie. Mayotte sort ce mercredi matin d'une première nuit sous couvre-feu mise en place hier soir pour assurer la sécurité et prévenir les pillages. Quelques jours après le passage du cyclone Chido, le président français Emmanuel Macron se rendra ce jeudi sur l'archipel où les réserves d'eau et de nourriture ne cessent de s'amenuir, faisant craindre, Alexandra Sirgan, une crise sanitaire majeure.
Oui, car la majorité de la population est privée d'eau du robinet depuis samedi. À Mamoudzou, les policiers municipaux ont pour mission d'apporter des bouteilles d'eau aux habitants, mais l'accès à certaines zones reste encore très difficile du fait des empilements d'arbres, de tôles ou encore de voitures. La préfecture de Mayotte a indiqué que la moitié de la population devrait à nouveau être approvisionnée en eau d'ici demain et 75% d'ici la fin de la semaine. Pour ce qui est de la nourriture, quelques 120 tonnes doivent être distribuées aujourd'hui sur les deux îles mahoraises et un navire militaire est attendu attendue jeudi matin avec 180 tonnes de fret à bord. Aux pénuries s'ajoutent les risques d'épidémie, la pollution des eaux et la destruction des réseaux d'assainissement font courir un risque sérieux de contamination à de graves maladies comme la diphtérie ou le choléra. À peine 10% de la population est vaccinée contre cette bactérie. Des épidémies d'autant plus incontrôlables que les infrastructures de santé qui avaient déjà un genou à terre avant le cyclone sont aujourd'hui effondrées. L'unique hôpital de l'archipel a retrouvé depuis hier seulement quelques 50% de son activité. Il sera soutenu par un hôpital de campagne dès jeudi.
Merci Alexandra. Alexandra Sirgan. Un géant d'Afrique centrale contre un géant de la tech, l'État congolais dépose plainte en France et en Belgique contre des filiales du groupe Apple, accusées d'utiliser dans ses produits des minerais exploités illégalement en RDC. À Kinshasa, les explications de Pascal Moulégois.
Mandatés par Kinshasa, les avocats Robert Amsterdam, William Bourdon, Vincent Bergraff et Christophe Marchand ont déposé une plainte en France et Belgique visant Apple, l'accusant des recels et des pratiques commerciales trompeuses. Selon eux, la société américaine à la pomme blanche aurait acheté des minerais extraits illégalement de l'Est de la RDC via le Rwanda voisin, où ces minerais seraient blanchis et intégrés dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Apple est accusée d'avoir affirmé à ses consommateurs que ses chaînes d'approvisionnement étaient propres alors qu'elle aurait facilité des activités criminelles telles que le financement des milices, des groupes terroristes, l'exploitation d'enfants dans des conditions de travail forcées ainsi que la dévastation environnementale. Les avocats s'appuient sur des rapports des Nations Unies, du département d'État américain et d'ONG comme Global Witness pour soutenir leurs accusations. Ils ont également sollicité Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, afin d'ouvrir un dialogue sur la responsabilité des acteurs impliqués dans ce trafic. Mise en demeure en avril dernier, Apple avait nié toute légitimité à ces accusations, tandis que Kigali avait qualifié les accusations congolaises des rhétoriques sans fondement. Pascal Moulégua, Kinshasa. RFI pour Radio Vatican.
Une autre plainte, celle déposée par 5 familles palestiniennes contre le département d'État américain au sujet de l'aide militaire accordée par Washington à Israël. Les plaignants se basent sur une loi américaine qui interdit d'armer les forces de sécurité étrangères accusées de violer les droits de l'homme. Plus de 45 000 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne depuis le début de la guerre après les attentats du 7 octobre. En majorité des femmes et des civils, plusieurs agences onusiennes et des ONG internationales dénoncent un génocide. En Grande-Bretagne, c'est le projet d'une ambassade chinoise géante qui fait polémique. 6 ans après l'achat d'un terrain dans un quartier iconique de Londres, la Chine n'a toujours pas obtenu le permis de construire. Des retards qui risquent d'entraver les efforts du Premier ministre Keir Starmer pour réchauffer les relations avec Pékin et développer les échanges commerciaux. À Londres, Jean Jaffray.
En 2022, le projet proposé par un cabinet d'architectes réputé a été rejeté unanimement par le conseil municipal de Tower Hamlet à la suite de l'opposition de riverains pour des raisons de sécurité. Mais le Premier ministre Keir Starmer, élu en juillet, s'est engagé à relancer les relations avec le régime de Pékin. Le projet sera de nouveau examiné, quasiment identique, par une commission d'urbanisme prochainement. Si le projet est validé, ce sera la plus importante représentation diplomatique chinoise en Europe. Les relations entre Londres et Pékin demeurent tendues depuis la répression par le régime communiste du mouvement pro-démocratique à Hong Kong et la nouvelle ère en or promise par le Premier ministre David Cameron en 2015 ne s'est pas matérialisée. Sous la pression américaine, le contrat pour développer le réseau 4G avec le géant de la téléphonie Huawei a été résilié. Enfin, China Nuclear General s'est retiré du consortium formé avec EDF pour construire la centrale nucléaire de Hinkley Point C dans l'ouest de l'Angleterre. Les importations de Chine s'élèvent à 60 milliards de livres, 3 fois plus que les exportations britanniques. Long, Jean Jaffray, Radio Vatican.
L'Équateur échange 1,5 milliard de dollars de sa dette extérieure contre un nouveau prêt pour la protection de l'Amazonie. Cela devrait permettre de dégager 23 millions par an pendant 17 ans pour notamment aider les peuples indigènes qui vivent en Amazonie équatorienne. Les échanges de dettes pour sauver la nature sont nés à la fin des années 80 pour aider les pays à refinancer leurs obligations tout en se consacrant à des objectifs environnementaux. Et au chapitre défense de l'environnement, une bonne nouvelle, celle de la libération du militant écologiste Paul Watson. Après 5 mois de détention au Groenland, la justice de l'archipel, nippon l'accuse de dommages sur un navire baleinier en 2010. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky exhortait hier ses alliés occidentaux à renforcer urgemment l'Ukraine sur le champ de bataille. Un nouvel appel à l'aide alors que les forces de Kiev reculent depuis des mois face à l'armée russe. Les bombardements de Moscou sur les infrastructures énergétiques ont par ailleurs, pour la troisième année consécutive, mis à rude épreuve les centrales du pays et préfigurent un nouvel hiver difficile pour le peuple ukrainien. Demain, Volodymyr Zelensky sera à Bruxelles pour une nouvelle réunion avec ses alliés européens. Aux côtés du Premier ministre polonais Donald Tusk, hier, déjà, il les invitait à rester unis face au retour, fin janvier, de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le nouveau président américain ne cachant pas sa volonté de réduire l'engagement américain dans l'OTAN. Une nouvelle raison pour les pays de l'UE de s'engager réellement dans une Europe de la défense ambitieuse. Mais jusqu'ici, les signaux envoyés ne sont pas à la hauteur des enjeux. C'est l'analyse ce matin de Frédéric Moreau, chercheur associé à l'IRIS et spécialiste des questions de défense. On l'écoute.
Les grands acteurs européens que sont l'Allemagne, la France, l'Italie, et même si elle ne fait pas partie de l'Union européenne, le Royaume-Uni, ont fait des choses, mais pas assez. Ceux qui pourraient vraiment, comme l'Allemagne, ne le veulent pas tout à fait, même si il faut bien reconnaître que l'Allemagne est le premier contributeur et de très loin de tous les États européens. La France a fait beaucoup, elle a délivré des capacités critiques, mais elle est dans une situation et financière et politique très délicate, et donc ça entrave sa liberté d'action. Et l'Italie tergiverse un petit peu, elle ne fait pas de gros efforts pour sa propre défense, parce qu'elle est d'abord dans une situation financière qui est au moins aussi délicate que celle de la France, et puis parce qu'elle ne se sent pas très menacée, à dire la vérité, par la Russie. Les institutions européennes font des choses de leur côté, mais les États membres ne sont pas capables de percer ce plafond de verre qui nécessiterait de faire des choses ensemble. L'Union européenne va devenir véritablement efficace lorsqu'elle va décider d'intégrer ses défenses, et les leaders européens, pour des raisons diverses et variées, qui tiennent aux traditions militaires, à la pression des industriels de défense, ne veulent pas s'intégrer.
Au-delà des différentes doctrines militaires et de la culture militaire de chaque pays européen, est-ce que le défi, le vrai défi, n'est-il pas industriel, la capacité de produire de l'armement pour que l'Europe elle-même se protège d'une menace russe ?
Alors, c'est un des défis, mais ce n'est pas le seul. Il faut être clair sur les termes. Hein. Pour l'instant, nous avons une défense de l'Europe. Et cette défense de l'Europe, c'est l'OTAN, c'est-à-dire, en somme, les Américains. Si les Américains se retirent de l'OTAN, la défense de l'Europe par les États européens sera très affaiblie. Pourquoi ? Parce que les États européens sont fragmentés et donc ils sont un petit peu comme les tribus gauloises devant Jules César. Le défi industriel est un défi, mais ce n'est pas le seul. Une défense européenne, si elle existait, ce serait une défense de l'Europe, pour l'Europe et par l'Europe. Pour que cette défense existât, il faudrait qu'elle marche sur deux jambes, la jambe industrielle, mais aussi la jambe opérationnelle. Et cette jambe opérationnelle, elle suppose pas une armée européenne où tous auraient le même uniforme, mais elle suppose une intégration sous un commandement militaire unique. On en est très loin.
Les Européens ont bien pris conscience de cette menace, d'un désengagement américain ?
Oui, ils ont bien pris conscience, mais le problème, c'est pas d'augmenter les dépenses, le problème, c'est de mieux dépenser ensemble. Si chacun veut sa flotte d'aviation de combat, mais que personne n'a les moyens de se payer des satellites, ça sert à rien, sauf à acheter américain.
Roumanie, Géorgie, Moldavie, qu'en est-il de la guerre hybride menée par Moscou à certains pays européens ?
C'est la conséquence directe de la guerre que nous mène la Russie. Derrière l'Ukraine, le vrai ennemi de Vladimir Poutine, c'est l'Union européenne et l'OTAN. Comment va-t-il s'y prendre ? Tout le monde fantasme sur une invasion du territoire estonien à Narva ou en Moldavie ou en Roumanie, etc. Non, la vraie guerre qu'il a déclenchée depuis au moins 2014 contre l'Union européenne, c'est une guerre hybride. C'est-à-dire qu'au fond, il nous détruit de l'intérieur, tout simplement en finançant des partis, en finançant des mouvements, des mauvaises nouvelles qui sapent les fondements de nos démocraties. Regardez ce qui s'est passé en Roumanie. Ce candidat est sorti de nulle part, le candidat pro-russe. Il est sorti grâce et à cause de l'émergence des campagnes TikTok. Si nous voulions faire quelque chose, il faudrait commencer par détruire les centres du KGB et les usines à trolls.
Voilà, interrogé par Olivier Bonnel, Frédéric Moreau, chercheur associé à l'IRIS. Merci pour votre fidélité. À suivre en direct l'audience générale du pape François et je vous retrouve à 13h. Bonne journée.